I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans la FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. C'est un papa heureux. Un papa rayonnant. Il est arrivé ce matin au bureau et quelque chose avait changé dans son regard. Un sourire en coin, une mine éclaircie, mais quelle mouche l'avait donc piqué? Et puis, entre la salade et le sandwich, la confession, la gorge nouée de sanglots à peine voilés. Martin, ma fille veut faire du foot l'an prochain. Et là, j'ai senti la fierté du papa qui voit son travail récompensé. Des heures à disséquer la tactique de Jacques Santini à l'Euro 2004 le dimanche matin, quand d'autres vont faire du vélo avec leurs copines. Des heures à être interrogé sur le 5-2-3 de Raymond Goethals ce 26 mai 93, quand d'autres bûchent sur société, église et pouvoir dans l'Occident féodal, 11e, 15e siècle. Elle voulait jouer à Fortnite, il l'enchaînait devant FIFA. Ta fille n'a pas eu une enfance facile, Maxime. Mais elle a fini par craquer sous le poids de la pression du paternel. Alors bien sûr, Maxime projette en elle cette carrière qui s'est refusée à lui. Quand à 11 ans, l'éducateur du football club de l'île d'Adam lui a brisé sa carrière en lui assignant cette phrase assassine. Max, bah, essaie peut-être le badminton du coup. Il n'a jamais oublié Max. Et aujourd'hui, il goûte sa revanche. Comment ça va, Maxime?
Écoute, ça va, mais tu sais que je la saoule aussi avec l'Occident féodal. Hein, parce que ma deuxième passion, c'est l'histoire.
J'ai vérifié, c'est dans le programme de 5e. Hein. Elle est en 5e, t'as
vu? D'accord. Non, mais c'est vrai que la dernière fois, j'ai fait avec elle, je crois que c'est une lithographie justement qui représentait les pouvoirs, etc. Ça m'a passionné, je crois que j'ai eu 18 ou 19.
Ouais, par contre, là, t'as perdu tout le monde. T'as perdu toute notre audience, Maxime.
Ben non, mais d'ailleurs, on devrait plus souvent parler d'histoire ici, justement, faire des débats sur
l'Occident féodal.
Bref, ou si c'est le Gros ou Saint-Louis, tu vois, ce serait sympa, tu vois.
Ouais, alors par contre, t'inviteras ta fille parce que moi, j'aurais beaucoup de mal à te suivre, Maxime.
Je pense qu'elle aussi, à mon avis, je pense qu'elle sera.
Pépin le Bref, ça va encore. Derrière, c'est foutu pour moi.
Non, mais
j'ai lâché un Pépin le Bref.
Pépin le Bref, et je dirais, ce qui est étonnant dans le choix de ma fille potentielle l'année prochaine de faire du foot, c'est qu'elle passe quand même de la danse classique au football.
Mais Maxime, c'est tellement 2021. C'est tellement 2021.
C'est
donc tu la féliciteras de ma part. Tu la féliciteras de ma part. Il n'y a plus de barrière, Maxime.
Il n'y a plus de barrière. C'est marrant. Ça fait une sportive accomplie, j'ai envie de dire.
Donc, exactement. Alors, pas de Pépin le Bref aujourd'hui, Maxime, a priori, dans le. Moi, j'ai le sommet à la sous les yeux, a priori.
Non, je réfléchis.
Il n'y a pas de Pépin le Bref. En revanche, on va discuter, Maxime. Alors on va vous faire le sommaire tout de suite. Trois sujets dans ce FC Stream Team parce que l'actu est très très chargée. On va beaucoup parler des entraîneurs. Et on va démarrer avec, non pas les entraîneurs, mais les directeurs sportifs. Leonardo, Juninho, après ce qui s'est passé cette semaine, on va se poser la question. Est-ce que Leonardo et Juninho sont des problèmes pour Lyon et le Paris Saint-Germain? Ça sera notre premier sujet, Maxime. Ensuite, on parlera de Zidane.
Ouais, la semaine a été vraiment rythmée par les changements d'entraîneurs ou les bancs qui valsent dans tous les sens. Et non pas le dernier en date, mais le précédent, celui de jeudi, c'est Zidane, évidemment, qui a décidé de quitter le Real Madrid. Alors, on va se poser la question de la suite pour Zidane parce que vendredi, la Juve a annoncé Allegri, alors qu'on imaginait que la Juve pouvait être la suite pour Zinedine Zidane. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de bancs qui sont libres pour Zidane. De quoi a-t-il envie? À quoi peut-il prétendre? Évidemment, en filigrane, il y aura les Bleus qui, évidemment, ne sont pas à pourvoir, le banc n'est pas pourvoir, mais l'euro arrive et on sait qu'un euro raté pourrait changer la donne. Donc, on se posera tout simplement la question de l'avenir de Zinedine Zidane.
Et on terminera avec Pep Guardiola qui jouera la finale de la Ligue des Champions. Ce sera samedi face à Chelsea. Et on va se poser cette question. Est-ce que City est le plus bel accomplissement de Pep Guardiola? Est-ce que c'est encore plus fort ce qu'il fait avec Manchester City que ce qu'il a fait avec le FC Barcelone? Vous me direz, c'est peut-être trop tôt pour y répondre. Peut-être pas. Voilà. On vous répondra à cette question à la fin de l'émission. Maxime, on rappelle quand même que cette émission est à retrouver en intégralité, je vais y arriver, sur Facebook, évidemment, en live Facebook. Si vous ne supportez que nos voix et pas nos bobines sur toutes les bonnes plateformes de podcast, vous retrouverez cette émission en intégralité. Et enfin, si vous êtes plutôt des zappeurs et que vous n'avez pas trop le temps, et bien dans ce cas-là, il faut aller sur eurosport.fr et vous retrouvez les meilleurs moments de l'émission en vidéo découpée avec une dextérité certaine par Simon Farvac qui sera avec nous et qui remplace Adrien Yo. Cette semaine,
enfin,
remplacer Adrien Yo depuis le temps qu'on le voulait. C'est pas faute d'avoir poussé d'ailleurs. Et on remercie aussi Quentin pour les visuels. On y va, Maxime. Alors la première question.
On serait pas sur la première stream team 100% hors terrain là. Pas de sujet sur les joueurs, que du banc,
que du coach
et de la coulisse, là où se jouent les affaires du football. Jean.
Exactement. Alors les affaires du football, justement, on y vient. Rudy Garcia a livré une interview au Bazooka à nos confrères de l'équipe. C'était mardi, me semble-t-il, où il flingue complètement Juninho. En Angleterre, on apprend que Pochettino aurait des envies de revenir déjà à Tottenham 6 mois après être arrivé au Paris Saint-Germain parce qu'il y a de la friture sur la ligne avec Leonardo. Ça nous a donné envie de nous poser cette question sur les deux directeurs sportifs du Paris Saint-Germain et de Lyon. Est-ce que Juninho et Leonardo sont des problèmes pour Lyon et Paris? Mais je te laisse la parole, Maxime.
Alors, est-ce que ce sont des problèmes? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont des atouts? On finit par en douter. Je vais commencer par le premier d'entre eux, c'est-à-dire Leonardo, tout seigneur, tout honneur au Paris Saint-Germain, qui est là depuis plus longtemps. Évidemment, il y a eu cette césure. Il est là et à la base, apparemment, des rumeurs de retour de Pochettino à Tottenham, il y a d'abord évidemment l'envie de Tottenham de renouer avec son ancien entraîneur. Ça, c'est une chose. Et ce qui pourrait faire hésiter a priori l'Argentin, c'est tout simplement ses relations assez fraîches avec Leonardo et la façon dont le Paris Saint-Germain est organisé. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Tout simplement, à la base, il y a deux têtes fortes qui représentent le sportif au Paris Saint-Germain. Ce sont Leonardo et ce sont Pochettino. Et la question que je me pose tout simplement, sans présager du caractère de Leonardo et tout ça, est-ce que c'est possible tout simplement d'avoir deux personnes dans la lumière dans un même club de cette taille-là? Pour moi, le problème aujourd'hui avec Leonardo, on parlera tout à l'heure de ce qu'il a fait ces dernières années, qu'il a un peu perdu, on va dire, le mojo qu'il avait au tout début de son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il a construit aussi l'effectif, le premier effectif en allant chercher en Italie, avec Verratti, avec Motta, tous ces joueurs-là, c'était formidable. Mais force est de constater que depuis quelques temps, c'était plus compliqué. Le mercato de l'année dernière en est une preuve, mercato de dernière minute. Alors vous allez me dire, il y a une crise, ce n'était pas évident. Oui, sauf que c'est le boulot de Leonardo d'avoir des bonnes idées et de trouver des joueurs au-delà de ceux qu'il a trouvés, surtout dans un timing aussi serré. Le problème avec Leonardo, on l'a vu arriver avec Tourelle l'année dernière, c'est-à-dire quoi? C'est que Leonardo, je pense qu'il a besoin aujourd'hui de lumière. Il a besoin d'être dans la lumière, d'incarner une partie de ce projet sportif du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, dans des clubs de cette taille-là, à mon avis, on pourra en parler après, Martin, je pense qu'il n'y a pas la place pour deux hommes dans la lumière. Je m'explique. À Liverpool, par exemple, la lumière, c'est Klopp. C'est des managers, c'est des entraîneurs qui ne sont pas simplement des hommes de terrain. Est-il possible aujourd'hui, dans un club de cette taille-là, de dire à l'entraîneur qui est un personnage très payé, un personnage qui a de l'envergure, de lui dire « Écoute, c'est moi qui décide ». Tu prends ces joueurs-là, tu en fais ce que tu veux, ce que tu peux. Maintenant, tout simplement, quand on va chercher Pochettino, prenez le PSG, quand on va chercher Emery, quand on va chercher Laurent Blanc, quand on va chercher Tourelle, ce sont des hommes qui ont des idées footballistiques. On ne peut pas arriver à leur dire bah, « tu t'adaptes avec ce qu'on prend ». Évidemment, quand c'est Neymar, c'est Mbappé, c'est formidable, mais n'empêche que ça, l'impulsion ne vient pas d'eux et l'impulsion devrait venir du terrain. Aujourd'hui, je pense que le problème pour le Paris Saint-Germain avec Leonardo, c'est qu'il y a deux hommes sur les mêmes plates-bandes. Alors que pour moi, l'homme du terrain devrait être une sorte de manager avec des pouvoirs élargis et décider du sportif, donner une liste et dire « je veux ce joueur-là, à toi de me les trouver si c'est possible » et non pas le contraire, ce qui est un peu le cas au Paris Saint-Germain aujourd'hui.
Oui, alors moi je suis partiellement d'accord avec ça, c'est-à-dire que l'envie peut venir… Enfin, le projet à long terme peut être incarné par un directeur sportif. Moi, ça me pose pas de problème. La chose la plus importante, c'est de délimiter le périmètre de chacun. Et le problème de Juninho et de Leonardo, c'est qu'à mon avis, ça déborde. Tu l'as très bien dit, Leonardo et Juninho sont deux hommes qui ont été habitués à la lumière. Tous les deux ont été des grands joueurs, tous les deux avec le Brésil, ou alors avec le PSG, avec Lyon, avec l'AC Milan, etc. Ces deux joueurs aussi qui ont des visées... Leonardo, il a été entraîneur, et Juninho, il aimerait bien le devenir. Donc, il y a cette expérience du terrain et du banc qui, malgré tout, est là. Pour moi, ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, les frontières, elles sont poreuses entre le banc et la direction sportive. Ça peut très bien marcher d'avoir un directeur sportif qui fait sa politique et qui dit à l'entraîneur, bah voilà, il y a ces joueurs-là, l'entraîneur qui lui dit, moi j'ai ce cadre-là, essaye de me trouver des joueurs comme ça, et le directeur sportif qui les amène. Ça peut marcher si les frontières sont tracées et si on ne peut pas les dépasser. Je prends l'exemple de Lille, c'est le meilleur exemple Lille. Avec Luis Campos, qui pour lui n'avait pas du tout envie d'être entraîneur, qui lui est un vrai directeur sportif, avec un réseau monstrueux, avec une base de données folle, mais qui n'a jamais empiété sur le travail de Christophe Galtier. Et les deux hommes, et Galtier lui, il sortait d'un exercice à Saint-Etienne, enfin de plusieurs exercices à Saint-Etienne où il était rincé de faire les transferts, il n'en pouvait plus, il ne voulait plus, il voulait se concentrer que sur le terrain, Christophe Galtier. Et donc cet équilibre a été trouvé, et ça s'est vachement bien passé. Alors, Campos a fini par partir pour diverses raisons, et ça ne veut pas dire que Campos n'a pas un ego de dingue, et Galtier non plus. On arrive à les faire cohabiter parce qu'on a mis en place une structure comme celle du LOSC. Le problème vient sans doute des personnalités de Leonardo et de Juninho, bah voilà, qui sont deux anciens joueurs, deux anciens très grands joueurs. Il a fallu faire le deuil du terrain. Et généralement, quand il y a ce deuil-là, généralement, derrière la carotte, c'est d'être coach. Et il y a toujours ça qui flotte dans leur tête. Et c'est pour ça que, à mon avis, ça ne s'est pas si bien passé ces derniers temps.
Non, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que, pour moi, un directeur sportif est un homme plus de l'ombre, tout simplement. Et comme tu dis, qu'il ne doit pas viser un banc, sinon il y a problème. Parce que même si, je ne suis pas certain que Pochettino se sente menacé par Leonardo, de dire il va me prendre ma place sur le banc, non. Mais Leonardo, il a besoin d'être dans la lumière, d'incarner le projet, et n'accepte pas cette ombre. Je vais prendre les exemples assez proches de nous, puisqu'ils concernent les finalistes de la Ligue des Champions 2021, Chelsea, Manchester City. Je vous mets au défi, hormis les grands supporters de Chelsea, de me donner les noms dans le board de Chelsea, l'organisation, voilà, tout simplement. Donnez-moi qui s'occupe de Chelsea et du sportif, sinon Tourelle aujourd'hui. Évidemment, Tourelle ne décide pas tout lui-même, mais les hommes qui travaillent avec lui, et les femmes d'ailleurs, sont plus dans l'ombre, acceptent de ne pas incarner le sportif. C'est le fonctionnement à l'anglaise, tout simplement. Prenez anciennement Arsène Wenger, qui l'assumait tout, Ferguson assumait tout. Prenez Manchester City, l'autre finaliste de la Ligue des Champions. Comment ça se passe à Manchester City?
Là, on a un duo parfait, par exemple.
Il y a un duo parfait. Pourquoi? Parce que Begiristein, qui est ancien coéquipier de Guardiola au Barça, est directeur du football. Alors, Begiristein n'a pas été un immense joueur, c'était un très bon joueur, mais il est dans un poste de l'ombre. Il est directeur du football, il ne cherche pas à être dans la lumière.
Il y a une connexion entre les deux aussi.
Il y a une connexion.
C'est un tandem.
Il parle le même langage.
Exactement.
Et c'est aussi pour ça, je pense, que Guardiola reste aussi longtemps à Manchester City, lui qui voulait être sur des bases des cycles de 3 ans. Et je ne serais étonné que quand Guardiola dit à Begiristein, écoute, ce serait bien d'aller le chercher lui ou lui, que Begiristein aille lui chercher un autre joueur dans son dos. Voilà. Alors évidemment, Manchester City, il y a des moyens XXL, etc. Mais on ne va pas plaindre le PSG. Encore une fois, le mercato de l'été dernier du Paris Saint-Germain, alors évidemment, ce mercato, il est signé quoi? C'est tout. Le PSG paye toujours un petit peu Neymar et Mbappé. Évidemment, des investissements comme ça, on ne les rentabilise pas et aussi facilement. Et il faut, sur le long terme, entre guillemets, le payer. Il y a eu la crise du Covid, mais le mercato l'année dernière du Paris Saint-Germain, ben non, c'est pas possible, tout simplement. Et ça, c'est le boulot de Leonardo. Et c'est le boulot de Leonardo de faire en sorte que, en fait, c'est tout simple. Leonardo, j'allais dire, il a les cordons de la bourse, en quelque sorte, il doit trouver les joueurs, il doit donner les bons outils à son entraîneur. Si vous prenez un entraîneur qui a une philosophie de jeu, qui dit « moi, je veux qu'on joue comme ça », autant lui filer les bons outils. Si vous lui filez des outils qui ne correspondent pas à ce qu'il veut faire, ça ne fonctionnera pas. Et je pense qu'aujourd'hui, alors, pour Pochettino, c'est peut-être un peu différent. Et pour Tourelle, notamment, c'est ça qui n'a pas marché. Ça, plus la lumière, ça ne va pas. Il faut vraiment que les deux personnes parlent le même langage et soient sur la même longueur d'onde. Tout n'est pas toujours parfait, mais au moins que c'est cette philosophie globale.
On va prendre quelques déclats pour un peu illustrer ce qu'on raconte. Dans sa biographie, Carlo Ancelotti définissait comme ça sa fin d'aventure avec le Paris Saint-Germain. Leonardo était mon ami, c'est ce que je pensais. Mais il ne m'a pas donné de véritable explication sur les raisons pour lesquelles j'avais été traité de cette façon. C'est-à-dire que Leonardo, à un moment, avec Ancelotti, il a décroché. Voilà. Il lui a dit, notamment c'est ce que reproche Ancelotti dans sa biographie, il lui a dit, je crois que c'était Porto et Reims, si tu perds ces matchs-là, c'est terminé. Donc que Paris les gagne ou pas, il y avait quelque chose qui s'était brisé avec le directeur sportif. Et là, il y avait un tandem, justement, on parlait de tandem avec Guardiola à City. Le tandem s'était fissuré et c'était terminé. La question de confiance, c'était... Alors, on va prendre encore plus évident les déclarations de Rudy Garcia. Et c'est ce qu'on disait un peu sur Juninho tout à l'heure. Avec Juninho, donc, on ne parlait que de compo, de tactique, mais pas de projet de club. C'est ce qu'il a dit donc, dans les colonnes de l'équipe. Pas de recrutement ou de jeunes. Tout ce qui incombe à un directeur sportif, il est encore trop dans le mode joueur. Voilà. Pas assez de recul sur la situation donc pour Rudy Garcia. C'est pas la première fois qu'on dit ça hein, pour Juninho. Mais ce qui est rigolo, c'est que Garcia reproche à Juninho ce que Leonardo reproche à Pochettino, c'est-à-dire la gestion des stars, etc. C'est le fond du problème, c'est la gestion des joueurs, des égos. C'est-à-dire qu'il y a deux lectures. Juninho qui va reprocher à Garcia de pas être assez dur avec les stars. Pochettino qui va reprocher à Leonardo de pas être assez dur avec les stars, pareil. Parce qu'il y a, bah voilà, il y a deux niveaux. Et à partir du moment où il n'y a pas une symbiose, où il n'y a pas le même degré d'exigence pour l'entraîneur et pour le directeur sportif, ça crée des failles dans un effectif. Et forcément, les joueurs vont s'engouffrer dedans et trouver la solution qui répond le plus à leurs besoins, qui n'est pas forcément celle de l'entraîneur du coup. Et, ouais, c'est ce qui explique pourquoi ça éclate.
Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un manager qui assume tout.
Oui, voilà,
tout
exactement. Simplement.
Alors, soit vous avez, comme tu l'as dit, Christophe Galtier, qui n'a pas envie, même si peut-être qu'à Nice, s'il signe, ça changera un petit peu.
Bah non, il y a Fournier à Nice.
Oui,
c'est pareil.
Oui, mais t'es pas sûr. Enfin, je pense que la politique sportive, on verra, mais je pense qu'il s'en occupera un peu plus. Soit quelqu'un qui s'occupe vraiment du sportif, du terrain pur et dur, ça s'arrête là. Et qui accepte donc d'être managé, entre guillemets, par un type au subi. Sinon, pour moi, la meilleure solution, c'est un coach qui assume tout. Parce que, comme tu l'as dit, c'est source de conflit. C'est-à-dire que je ne suis pas content avec l'entraîneur, je suis joueur, donc je vais aller me plaindre avec le directeur sportif. Et ça crée des dissensions absolues. Et qui assume, comme tu dis, est-ce que, par exemple, ce que tu as dit avec Ancelotti et Leonardo, c'est intéressant. Est-ce que c'est le rôle d'un directeur sportif d'aller voir un entraîneur pour dire si tu ne gagnes pas là,
non.
Tu dégages.
Bah non,
pour moi, c'est au-dessus. C'est... Peut-être que Leonardo, son vrai rôle, ce serait d'être un président directeur délégué, je ne sais pas, un PDG du PSG, etc. Et pas dans ce poste-là qui est… Pour moi, c'est un poste un peu bâtard. On est entre deux os, c'est-à-dire que ça s'occupe un peu de terrain, mais pas totalement. Pour moi, le meilleur poste possible, c'est un manager avec des pouvoirs élargis qui s'occupe du sportif, c'est-à-dire qui a ses demandes en recrutement. Évidemment, ce n'est pas lui qui va négocier, mais qui dit « Moi, ma feuille de route, il me faut ceci. Tout ce qui est financier, vous laissez, mais laissez-moi le sportif. » Je pense qu'il est obligé d'avoir ça ou d'avoir le modèle donc à la Guardiola avec des gens qui parlent le même langage, mais ça, c'est beaucoup plus rare.
Allez, on va passer au deuxième sujet avec Zinedine Zidane qui… le Real et Zidane, c'est fini, ça a été annoncé jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on va se poser cette question évidente. Et Zinedine Zidane, qui a remporté des Ligues des Champions, qui a remporté le championnat l'an passé, la Liga l'an passé, qui fait aujourd'hui partie des meilleurs coachs du monde, des références, il ne va pas rester sur la touche pendant des années. Donc, quel avenir pour Zinedine Zidane? Alors, il y a un premier problème, c'est que quand on s'appelle Zinedine Zidane, on ne va pas aller n'importe où. Donc là, il y a une valse des coachs à peu près partout en Europe, notamment en Italie, mais c'est très compliqué de voir, ne serait-ce qu'à la tête de l'Inter Milan, un Zinedine Zidane. Aujourd'hui, les postes pour Zizou, c'est le top du top du top du top. Or, le Real, ce n'est pas possible. Le Bayern de Munich, ils viennent d'engager un nouveau coach. La Première Ligue, on en reparlera. Alors, est-ce que ça peut être la Juventus Turin? C'était en tout cas la Juve, la suite logique de sa carrière. Vous savez que Zidane, la Juve et le Real Madrid sont ses de club, voilà, il a laissé d'excellents souvenirs dans les deux. Le problème, c'est que la Juventus Turin, la place elle est prise par Allegri, donc il fait son retour à la Juve. Donc pour la Juve, c'est à râper. Alors Maxime, que franchement, on pensait que c'était l'option prioritaire et peut-être la plus évidente.
Ouais, ça paraissait, je vais pas dire écrit, par exemple, typiquement, à le Real Madrid, j'aurais du mal à imaginer une personne autre que Conte maintenant à la suite de Zidane, je ne sais pas pourquoi, ça match. C'était un rendez-vous qu'avaient les deux depuis quelques années. Et là, le moment est venu, je pense, et Conte, ça sera la Real Madrid. Mais à l'inverse, ça sentait très bien, ça sentait très bon pour Zidane à la Juve. Voilà, il y avait le côté, évidemment, les années Juve de Zidane entre 1996 et 2001. Et puis voilà, et peut-être que c'était l'entraîneur qui correspondait presque à l'ADN de la Juve, mais patatras, la Juve a pris un choix plutôt sécurisant, on va dire.
Un plat du pied, c'est le plat du pied, là.
Les doubles expériences Sarri, Pirlo, qui n'ont évidemment pas fonctionné comme il le fallait. Donc, résultat, c'est Allegri. Et c'est vrai que Zidane se retrouve un peu le bec dans l'eau. Et alors, je ne me fais pas de soucis pour Zidane, parce que je pense que c'est un entraîneur libre. Peut-être qu'il a envie de replonger tout de suite, mais bon, On n'a pas de mal à l'imaginer prendre une année sabbatique, s'éloigner un petit peu. C'est un homme de timing, Zidane. Souvenez-vous, quand il part en 2018, il part au moment opportun du Real Madrid, c'est-à-dire ça sent la fin de parcours. Il y a une troisième Ligue des Champions, mais en Liga, cette équipe commence à piquer du nez. On sent que c'est des mercenaires qui n'ont plus vraiment la niaque. Il part au bon moment. Il avait raison parce que son successeur a eu des gros soucis avec le Real. Il revient au bon moment. Et j'ai envie de dire presque qu'il part au bon moment après une deuxième expérience qui, pour moi, aurait été plus riche au niveau managérial, au niveau entraîneur, notamment la saison de la Liga gagnée l'an dernier. Maintenant, oui, le rebond.
Il y a une deuxième option, Maxime. C'est le Paris Saint-Germain. Parce qu'on l'a dit, hein, si Pochettino s'en va, on peut imaginer le PSG être. Alors, moi, je suis en tout cas persuadé que pour le PSG, ça ressemble à une solution idéale si Pochettino s'en va. C'est une façon de ne pas perdre la face déjà, parce que perdre Pochettino et récupérer Zinedine Zidane, c'est plutôt chouette. On sait quand même qu'il y a un lien étroit hein, qui unit Zidane et le Qatar. On rappelle que Zidane était ambassadeur de la Coupe du Monde de 2022. Et on sait que le plus important de tout pour le Qatar, c'est l'image, c'est la communication. Ouais. Zidane, son image, elle est immaculée. Comment faire mieux que Zidane sur le banc quand on est le Qatar? Non. Je pense que c'est impossible de faire mieux. Et un dernier argument qui peut avoir son importance, c'est qu'on parlait beaucoup de Zidane au Real pour charmer Mbappé. Si Zidane atterrit sur le banc du Paris Saint-Germain dans 2 semaines, bah, ça sera un vrai argument aussi pour garder Kylian Mbappé. Bref, en tout cas, pour le Paris Saint-Germain, ça ressemble à la solution idéale en cas de départ de Pochettino. Pour Zidane, Maxime, en revanche?
Alors, pour une fois, je vais aller vite. Je vais être très court dans ma réponse. Tu as parlé d'un lien étroit qui unit Zinedine Zidane et le Qatar. Il y a aussi un lien étroit qui unit Zinedine Zidane et Marseille. Donc, lui, on a déjà parlé de toute manière. Autant, quand il était joueur, il avait affirmé qu'il n'irait pas jouer à l'Olympique de Marseille parce que ce serait trop de pression et que... Enfin, imaginez Zidane à Marseille à l'époque du joueur. En plus, ce joueur était évidemment devenu trop gros pour le club. Non, je pense que Zidane n'ira jamais. Alors, j'aurais l'air malin, on ressortira la séquence. Je pense que Zidane n'ira jamais au Paris Saint-Germain pour ces raisons-là. Voilà, il y a quelque chose. Alors, après, on peut parler de la Ligue 1, de tout ça. Je serais vraiment très étonné que Zidane, natif de Marseille, aille un jour entraîner le Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, ça me paraît complètement.
C'est ta vision romantique, mais c'est bien.
Et c'est plutôt sympa aujourd'hui, voilà, où on dit, voilà, tu parlais des liens étroits avec le Qatar, des fois ça fait plaisir, il y a de l'argent, on y va. Je pense que lui est très attaché à ça, qu'il n'ira pas. Imagine la famille à Marseille, non, vraiment, je ne pense pas. Il est presque, alors ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire maintenant, on va le développer après, il est presque plus proche de l'équipe de France que du Paris Saint-Germain aujourd'hui.
Justement, équipe de France, c'est la dernière option. Alors, il y en a d'autres, évidemment, mais bon, le Bayern, il y a des coachs, etc. Donc, on a choisi 3 options. C'est l'option équipe de France. Et de ces 3 options-là, je pense que c'est celle où, en tout cas, on le verra un jour sur banc de l'équipe de France. Le problème, c'est quand? Parce qu'aujourd'hui, il y a un sélectionneur qui est franchement bien ancré sur le banc. Il y a un duo, surtout, avec son président qui marche à merveille. Noël Le Graët vient d'être élu à la tête de la FFF. Ça, c'est immensément important aussi. Donc, on est sur un duo qui a quand même une vision très longue, hein, au moins jusqu'au Qatar, sauf si ça se passe mal à l'Euro. Alors, petit clin d'œil, c'est sans doute que du hasard, mais la première fois que Zidane quitte le Real Madrid, c'est juste avant la Coupe du Monde 2018, et là, il requitte le Real Madrid, et c'est juste avant l'Euro. Au cas où, s'il se passe quelque chose cet été, si l'équipe de France valse dans le décor, bah, il est là. Voilà, il est là, il est disponible. Maxime, ça paraît quand même compliqué aujourd'hui d'imaginer Didier Deschamps s'en aller de cette équipe de France qu'il a menée au sacre mondial, qui quand même lui ressemble beaucoup. Tous les joueurs adhèrent encore à son discours. Ça paraît compliqué, Maxime.
Ouais, ça paraît compliqué, mais alors déjà, loin de moi de penser qu'il l'ait fait exprès. C'est vrai que le hasard aurait pu faire les choses correctement. Et peut-être que... peut-être dans un coin de son esprit, ça compte aussi de dire, bon, je vais quitter le Real, on est sur une année de grande compétition, advienne que pourra. Maintenant, comme tu as dit, Zidane, Didier Deschamps est sous contrat avec la FFF et l'équipe de France jusqu'en 2022. Donc, il y a une Coupe du Monde qui arrive bientôt, il est champion du monde, on le sait, il nous l'a déjà dit plusieurs fois, son but, c'est de rester à la tête des Bleus le plus longtemps possible, parce que c'est un poste où il est complètement épanoui et où, a priori, il fait de bonnes choses pour l'équipe de France. On rappelle, quart de finaliste de la Coupe du Monde 2014, finaliste de l'Euro 2016, champion du monde. Mais c'est aussi un poste, l'équipe de France, de sélectionneur en global, où vous jouez un peu votre tête sur un mois, tous les deux ans, ou trois ans, évidemment, quand il y a le Covid.
Mais est-ce que Didier Deschamps n'a pas montré suffisamment, malgré tout, pour être à l'abri d'une démission ou... Je pense que Noël Le Graët, moi, ne s'en séparera jamais.
Ouais, Didier Deschamps n'est pas du genre à rester à s'accrocher à un poste. Alors, on en a connu qui était à s'accrocher. Je vais être très honnête, je pense... l'équipe de France ne fera pas sortir au premier tour de l'Euro, sinon c'est non pas la surprise du siècle, mais
après, Portugal, enfin, si tu te fais sortir par la Portugal et l'Allemagne, c'est moins...
Ah non, mais c'est un échec.
C'est un échec, mais disons...
Ah non.
Non, mais bien sûr que c'est un échec, Maxime. Mais bien sûr que c'est un échec, on est d'accord là-dessus. Mais c'est moins infamant que par la Macédoine du Nord et par le Pays de Galles.
Non, mais c'est pas question d'être infamant, simplement c'est un échec.
Bien sûr, bien sûr.
Tu sors pas au premier tour, surtout un euro à 24 équipes ou 16 équipes au premier tour. C'est vrai qu'il faut vraiment le vouloir pour se faire éliminer au premier tour quand vous êtes une nation comme la France ou avec. Voilà. Mais je pense que, regarde la carrière de Deschamps, il s'accroche pas. Ça marche moins bien, c'est plus le moment. Je pense que Deschamps ne fera jamais, du moins. Jusqu'à ce jour, il ne fera jamais le match de trop ou la sélection de trop ou l'année de trop ou les deux ans de trop. Si Deschamps se plante, il connaît la règle de toute façon. La règle est tacite. Et puis, tu peux dire aussi que Le Graët ne le sortirait pas.
Il ne le lâchera pas.
Ouais, mais la pression serait quand même un peu forte si jamais il venait à se planter. Et comme tu as dit, il a du crédit parce qu'évidemment, il avait gagné la Coupe du Monde et ce n'est pas aussi simple que ça. Mais je pense que mon avis, c'est que Deschamps lui-même dirait... Après un gros échec, je dis bien, je dis pas après un quart, vous faites sortir au-dessus, au but, etc. Même si je pense qu'il y aurait à redire, je pense que Deschamps de lui-même dirait stop, voilà, j'ai fait mon temps, j'ai échoué, il connaît la règle. Et je serais très étonné, qu'il aille plus loin. Alors évidemment, si ça arrivait, ce que je n'imagine pas, oui, évidemment, le recours, il est évident. C'est,
Il y a
10 minutes après, le téléphone sonne. Et surtout que Le Graët a déjà dit, il sera un jour sélectionneur, Zidane, etc. Donc là, on ne se poserait pas la question. Mais encore une fois, c'est lié à un échec XXL de l'équipe de France et une décision de Didier Deschamps de partir.
Donc on voit que pour l'instant, en tout cas, dans un avenir très proche, le futur Zidane s'écrit pour le moment en pointillé. C'est très difficile de trouver une porte de sortie. On va terminer.
On a laissé, il y avait toujours pareil, l'option anglaise.
Ah oui.
On n'a pas parlé de l'Angleterre. Mais là, pour ce qui est de l'Angleterre, déjà, il faudrait que les postes se libèrent. Mais je pense que Zidane n'a pas l'ADN pour aller entrer. On a parlé dans le premier sujet des directeurs sportifs, des managers, des entraîneurs à pouvoir élargi. Il a fait de très bonnes choses au Real Madrid, notamment, moi je maintiens que sa saison 2019-2020 est la meilleure de sa carrière en tant qu'entraîneur. Mais je pense que Zidane n'est peut-être pas fait pour être ce manager au pouvoir élargi tel que l'Angleterre les entend. Voilà. Je ne suis pas sûr que pour ça, il aurait l'allure d'aller entraîner dans le championnat d'Angleterre. Pour moi, c'est une question de feeling et je ne le sens pas bien là-dessus.
Alors, tu me lances parfaitement, Maxime, pour le troisième sujet, en termes de manager qui a réussi en Angleterre, etc. Parce qu'on ne le voyait peut-être pas réussir en Angleterre, Pep Guardiola. Et on va se poser cette question, est-ce que ce que fait Pep Guardiola depuis qu'il est arrivé à Manchester City en 2016 est son plus bel accomplissement d'entraîneur? Alors, il jouera la finale de la Ligue des Champions ce samedi face à Chelsea et donc sans doute qu'une victoire dans la plus prestigieuse des compétitions apporterait une réponse un peu plus évidente à cette question. Malgré tout, on veut se poser cette question avant parce que sinon c'est trop facile. Sinon c'est beaucoup trop facile. Ce que je vous propose d'abord, c'est de constater le palmarès de Pep Guardiola depuis qu'il est arrivé en 2016 à Manchester City. Donc il y a 5 saisons. Sur 5 saisons, c'est 3 titres de champion d'Angleterre, 4 League Cup et une FA Cup. C'est tout simplement prodigieux. C'est fantastique de faire ça quand même dans la ligue la plus relevée au monde. C'est la ligue la plus relevée au monde. Et il a fait de Manchester City la meilleure équipe d'Angleterre depuis, et puis d'assez loin, depuis qu'il a pris en main le destin de Manchester City. Alors bien sûr, il y a Liverpool derrière, mais malgré tout, voilà, 3 titres de Première Ligue, c'est monstrueux. Pourquoi c'est fort ? Parce qu'on voit, ce qu'il y a écrit, les joueurs encore présents dans l'effectif, quand il a pris Manchester City, il n'y en a plus que deux. C'est Fernandinho et Sergio Aguero. C'est dire l'ampleur du chantier de Pep Guardiola. Alors bien sûr, il n'a pas tout changé dès qu'il est arrivé. Vous me direz 2016-2021, ça fait du temps, effectivement. Mais malgré tout, Il a mis en place quelque chose d'assez incroyable, un chantier monumental. Il a ravalé la façade de Manchester City et le City d'aujourd'hui ne ressemble alors plus du tout au City de 2016. Et ça, c'est très très fort dans une première ligue qui est très attachée aux traditions, qui est très attachée à beaucoup de choses. Guardiola, il est venu avec son bulldozer, il a dit « ça va passer ici ». Et pourtant, je pense que c'est l'écosystème le moins naturel à ces principes de jeu, la première ligue. C'est là où la greffe avait le moins de chances de prendre. Et pourtant, 3 titres de champion d'Angleterre, ça a pris. Donc pour moi, c'est pas loin d'être son plus bel accomplissement. Et je terminerai en disant, à Barcelone, il est arrivé. Ah, c'est extraordinaire ce qu'il a fait à Barcelone. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est fantastique. Il est arrivé. Il avait la plus belle génération peut-être de l'histoire, la plus belle génération spontanée de l'histoire. Bah, Xavi, Iniesta, je te vois faire la moue, Maxime, mais c'est vrai, Xavi, Iniesta, Messi, bon, il avait, disons qu'il avait une matière première qui n'était pas dégueulasse. Évidemment, à City, là aussi, il faut être tout à fait honnête, il a des fonds illimités. Donc, c'est aussi beaucoup plus facile de mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Malgré tout, faire ça, sans Messi, sans Xavi, sans Iniesta, dans un championnat aussi exigeant, aussi concurrentiel que la Première Ligue, où tu peux perdre chaque week-end, atteindre des barres de points absolument phénoménales. Il fait plus de 100 points, me semble-t-il, une saison, pas loin de 100 points. Voilà. Et l'année d'après, il fait combien? 98. Il termine deuxième avec 98. Honnêtement, si on nous avait dit ça, en Première Ligue, voilà. C'est pour ça que, pour moi, c'est pas loin quand même d'être son plus bel accomplissement, même si Maxime est un nostalgique. Alors Maxime, qui va défendre, Maxime, chantre, apôtre de José Mourinho, qui va nous défendre le Barça de Guardiola. Alors, vas-y, je bois du petit lait.
Le jour où Guardiola a pris une année sabbatique, après ses 3 ans au Barça, il a pris son temps, il a rebondi au Bayern Munich et on s'est dit quoi ? Ah bah oui, finalement, c'est logique. À l'époque, on se dit, c'est presque le club qui lui ressemble le plus, entre guillemets, hors évidemment FC Barcelone, par son organisation, par ce qu'il allait trouver là-bas. Il y avait quand même un petit risque, il faut le dire, mais il entrait un peu dans un cocon. Et puis, il y a eu le Bayern, et puis il y a eu Manchester City. Comme tu l'as brillamment dit, il a réussi dans des mesures qui sont assez exceptionnelles. Il ne faut pas se rappeler de cette première saison, là je vais aller dans ton sens, qui est très compliqué, et lui-même reconnaît que il fallait prendre la mesure de la Première Ligue. Pas aussi évident que ça, parce qu'il se retrouve face à des équipes qui ont tendance à parfois allonger, à lui rentrer dedans plus que le faisaient les Allemands face au Bayern, plus que faisaient les Espagnols face au FC Barcelone. Et donc au début, ce n'était pas évident, et il y avait un symbole de ça, c'était Claudio Bravo dans les buts, qui prenait la marée, et il s'est rendu compte que du passage de Gerard de Bravo à Ederson, c'est un peu le symbole de ça, il s'est dit « ça ne va pas ». Il a appris de ses erreurs jusqu'à faire cette machine qui peut-être demain remportera la finale de la Ligue des Champions, ce qui serait évidemment un accomplissement incroyable. Maintenant, je pense que sa réussite barcelonaise est encore un ton au-dessus. Pourquoi ? Parce que déjà, tu l'as dit, Manchester City, pardon, lapsus, est une équipe qui est richissime au possible. Moi, je le compare un peu, et c'est absolument pas un reproche ni ça ne réduit pas son mérite, à Phil Jackson, l'entraîneur, l'ancien entraîneur des Bulls et des Lakers. C'est-à-dire qu'il s'épanouit dans un système, il sait comment faire les choses, mais il faut mettre en place tout ce système-là. Ce n'est pas le caméléon à la Mourinho où il va se débrouiller pour faire différemment et qui va l'assumer, ou un Deschamps, même un Zidane, on l'a vu. Voilà. Maintenant, c'est un formidable entraîneur, mais comme tu l'as dit, il possède aussi un budget qui est non pas illimité,
même
mais plutôt
si,
pas mal.
Même si, et je tiens juste à dire ça, quand on regarde les recrues arrivées à Manchester City, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas d'Mbappé. La plus grosse star, c'est Riyad Mahrez. Donc, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, et De Bruyne n'est pas encore le De Bruyne, évidemment, il est plein de promesses, il ne va pas vers la facilité à recruter des joueurs déjà établis. Voilà, il les construit et il les fait progresser quand même.
Non, mais surtout, il vise, et on n'en parle, vous pouvez faire rien que le premier sujet, c'est-à-dire qu'il vise les joueurs qui vont correspondre à son identité de jeu, à ce qu'il veut faire. En revanche, il les paye très très cher. Si tu prends le prix de la défense de Manchester City, c'est plutôt pas mal, mais n'empêche qu'il le fait. Et c'est presque ça, c'est ça qui est fascinant avec lui, et même, c'est qu'il ne cède pas à la facilité d'aller chercher d'immenses stars, il va les construire aussi, ce qui est tout à fait remarquable. Mais comme tu l'as dit, il y a les moyens pour le faire.
Bien sûr.
Du coup, je me suis repenché un peu dans les moyens du FC Barcelone. Alors évidemment, c'est il y a très longtemps maintenant, c'est il y a 13 ans. Et dites-vous que le budget du FC Barcelone, il oscillait à 2 ans d'écart entre 330 millions et 400 millions d'euros. ce qui dit long aussi de la dérive du FC Barcelone.
C'est ce que dépense City sur un mercato aujourd'hui, quasiment.
Ouais, voilà. Non, mais c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'en voyant ça, vous dites que à l'époque, Barcelone avait des idées et Barcelone savait les mettre en place. Les idées de Barcelone, c'est aussi Guardiola qui les a mises en place. On va rappeler quand même que Guardiola, en 2008, quand il prend les rênes du club, il est personne. Il est personne, Guardiola. Il a entraîné les réserves, etc. Entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est Pirlo. Sauf que c'est un Pirlo qui gagne.
Ça se passe un tout petit peu mieux que Pirlo.
Donc, c'est 6 titres dès la première saison. Et surtout, il faut le dire, dès le début, il se retrouve à une situation qui est un peu viciée parce que les têtes d'affiche du FC Barcelona, qui a gagné quand même la Ligue des Champions 2 ans avant, mais qui a quand même perdu un peu de sa superbe, ça reste Ronaldinho, ça reste Eto'o. Ronaldinho, il lui dit, hop, tu sors, il faut y aller pour faire sortir. Il est quand même Ballon d'Or en 2005. C'est Ronaldinho. C'est pas toujours évident de faire sortir un joueur de cette stature-là. Parce qu'en plus, bon, OK, il a Messi. Messi, c'est déjà un deuxième du Ballon d'Or, mais il faut attendre de voir ce que ça va devenir. Évidemment, ça va devenir le joueur immense qu'il est devenu, donc ça aide aussi à gagner, ça je ne dis pas le contraire. Mais n'empêche qu'il y a aussi le cas Eto'o. Eto'o, il va garder un an, il va en faire quelque chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est... Moi, ce qui me fascine avec cette première année du Barça, c'est que c'est quasiment une combustion spontanée. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a une génération qui est incroyable, mais n'empêche que les Xavi, les Iniesta, ils sont déjà là avant. Ça marche, mais ce n'est pas non plus... la dinguerie que ça va devenir. Donc, il va réussir à mettre tout ça d'aplomb jusqu'à faire cette équipe qui va émerveiller l'Europe et qui va gagner la Ligue des Champions.
Qui est peut-être la plus grande référence du XXIe siècle.
Oui, et si je devais pousser un peu plus loin, j'aurais envie de mettre la finalité du Guardiola-Barça, qui est évidemment ce Barça 2011,
bien sûr,
finale de Wembley, qui est incroyable. Voilà. Donc moi, je garde toujours quand même cette... Alors, il y a peut-être un peu de nostalgie, en effet, mais je trouve que réussir ça... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a un même... entraîneur et deux quêtes différentes. C'est-à-dire que la quête qu'il va peut-être réussir en finale à Porto sera presque de longue haleine pour lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a fallu grimper au fur et à mesure, première année difficile. Puis après, il y a eu les échecs européens. Souvenez-vous, au mois de novembre, même au mois d'octobre, ouais, Guardiola,
on le voyait partir.
Terminé.
On le voyait partir.
Il est prolongé et finalement, ça sera un autre goût que cette quête spontanée qu'il a eu avec le Barça. Et ça donne deux goûts assez différents dans la bouche d'un entraîneur comme ça, parce que c'est allé très vite à un moment. Et là, il se retrouve face à une quête qui a duré 4 ans, enfin 5 ans même. Donc, c'est assez, assez formidable. Mais moi, je garde quand même un petit avantage sur le début, parce que faire ça comme ça, pas en claquant des doigts, mais réussir ça aussi vite, ça reste quand même exceptionnel, même si le niveau de la Liga est évidemment moins dense que celui de la Première Ligue.
Je crois qu'on a fait le tour, Maxime. De toute façon, ça fait une demi-heure que tu parles. Donc là, j'ai Simon qui il dort. Non, mais il s'est endormi.
Un jour, il faudra faire comme le CSA, avec les temps de parole.
Ah oui, exact. Oh, mais attends, tu serais foutu.
Non. C'est toi qui gagne. 20% de plus, tu vois.
Attends, là, on ne va pas raconter de bêtises, Maxime. Sur une heure de stream team, je pense que tu parles 42 minutes.
Tu es sérieux,
Simon.
Non.
Ah non, mais sans compter les intros.
Non, mais alors là, je suis sûr que si on enlève l'intro, c'est
toujours. On fera les comptes. Ouais. On va faire les comptes.
Et on en parlera la semaine prochaine.
Mais je pense parce que.
Et on rééquilibrera.
Exactement. Ah bah alors, tu vas passer 3 émissions avec le Bayon. 3 émissions, tu parleras pas. Pour rééquilibrer depuis les débuts du FC Stream Team, je pense qu'il faut que je fasse 3 émissions tout seul.
C'est parce que quand on parle, on voit pas le temps passer, donc c'est pareil pour toi, je suis sûr.
Ah bah toi, quand tu parles, on voit le temps passer, hein. On vous remercie de nous avoir suivis dans ce FC Stream Team. Et les gars, on a des surprises à venir, on vous dit que ça, mais voilà, il va y avoir du lourd. Sachez que Maxime et moi, à partir de dans 2 semaines, on va suivre les Bleus comme leur ombre. Voilà. On aura peut-être 2-3 petites choses à vous proposer dans le FC Stream Team qui auront un trait à l'équipe de France. Voilà, avec peut-être 2-3 petites personnes qui s'inviteront dans l'émission et non des moindres. On ne vous en dit pas plus. On ne vous en dit pas plus parce que tant que ce n'est pas fait, voilà, hein, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Maxime, merci pour cette émission.
Et merci à toi et sur cette conclusion très courte.
Nébuleuse.
Un peu nébuleuse.
Ouais. Nébuleuse.
Et pleine de promesses.
Mais voilà, parce que c'est ce qui s'appelle, c'est un très mauvais teaser. Mais il fallait le dire, tu vois, il faut appâter le chaland, comme on dit. Merci Simon, merci Maxime et merci Quentin. Et on se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, tout le week-end, c'est dingue. Le week-end est dingue. Voilà, il y a une finale de Ligue des Champions. Il y a de la MotoGP. Il y a tout sur Eurosport.fr. Donc venez, venez, venez nous voir. Il y a le critérium du Dauphiné libéré, hein. Enfin le critérium du Dauphiné.
Dauphiné. Ouais.
Ouais, moi je suis un ancien.
Tu parles du Parisien libéré.
Je suis un ancien, c'est pour ça. Qui démarre en tout cas ce week-end sur les antennes d'Eurosport. Donc soyez fidèles au rendez-vous et on se donne rendez-vous, nous, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao.
Salut.
We'll be right back.